Bonjour chers auditeurs et auditrices d'ici et d'ailleurs. Mais qu'y a-t-il de neuf exactement, à part le numéro de ce nouvel et dernier équipe de la saison? Le décor? Insolite? Ah oui, ça bruisse de mots, d'images, de papiers, d'idées. J'espère même que cela s'entend à la radio. Car nous avons la chance d'être accueillis dans le cadre chaleureux, à la fois d'hier et d'aujourd'hui, de la librairie Le Marque-Page, les héros de papier, à Saint-Marcellin. Notre hôte, Véronique Montfort, bonjour Véronique,
bonjour,
sera aussi notre invitée. Merci de vous prêter au jeu et de nous ouvrir vos portes, vos livres, vos annexes, vos alcôves. Et comme pour chaque émission, que serait un incipit même neuf sans mes complices Prune Vélo,
bonjour,
et Violaine Solet?
Bonjour, bonjour.
Bonjour Violaine Soulier et Prune. Aujourd'hui, les choses changent un peu, car vous êtes aussi mes invités, mesdames.
Merci.
Pour ne pas dire les guides aventurières, diseuses de belles aventures, mais aussi éclaireuses, arpenteuses de cet incipit. C'est en effet un très beau projet de résidence de création de votre duo, Promenons-nous dans les voies, duo musical et littéraire, qui nous a menés en balade et vagabondage jusqu'ici, dans le sud grésivaudan. Moi, je ne savais même pas que le Grésivaudan va un sud, mais ici, ça sent le sud à Saint-Marcellin. Vous allez même plus loin jusqu'à entrer au couvent tout bientôt.
Mais oui, c'est notre projet de duo, le couvent.
Le couvent. Le
des
couvent,
Carmes.
Le couvent des Carmes à Beauvoir, en Royon.
Tout à fait.
Sur vos pas, au fil de vos voix, de vos notes de musique, nous prendrons les sentiers, à la fois subtils, même insoupçonnés, de la nuit. Car telle est notre thématique. Et quoi de plus radiophonique, radiopoétique que la nuit, même en plein jour? La nuit, grâce à Arnaud, qui assure la technique du studio mobile de Campus Grenoble, cet incipit numéro 9, tout neuf, s'invite, vous invite. Alors, promenons-nous dans les voies et plongeons dans la nuit qui palpite. C'est bien avec vous, chère diseuse de belles aventures, chère autrice, compositrice, musicienne que vous êtes, c'est bien avec vous, Prune et Violaine, que nous commençons. Et vous avez choisi deux extraits pour nous embarquer dans deux nuits. Une nuit de nuit et une nuit de jour. Non, ce n'est pas ça.
C'est presque ça. Une nuit du matin et une nuit du soir.
Avec quelle nuit commencez-vous?
Eh bien, nous allons commencer avec Petit Pec.
Et la nuit du matin.
Alors, Petit Pec aime écouter les histoires de sa grand-mère légende et courir à travers la steppe. Et dans quelques jours, il participera à la grande course d'obstacles d'ici loin. Serez-vous de l'aventure? Petit Pec, c'est un ouvrage paru en 2020 et écrit par Prune Vélo elle-même,
ici présente.
Quelle chance avec nous, elle est là. Journaliste, passionnée de littérature jeunesse. Pour ce livre illustré, elle a noué une collaboration avec une artiste haute-savoyarde, Anaïde de Pachter. Artiste plasticienne, Anaïde a tout de suite accroché avec l'histoire de Petit Pec et accepté de prêter son coup de crayon à ses aventures. Et dans l'extrait qui nous occupe, nous sommes tout juste à l'aube du départ et Petit Pec a bien du mal à trouver le sommeil.
Fermons les yeux.
4 heures. Je roule à la va-vite ma natte et ma couverture de laine. Ça y est, c'est le grand jour. Dans 1 heure, je prendrai le départ de la grande course d'obstacles des steppes d'ici loin. Je suis surexcitée. Toute notre yourte dort encore, sauf ma mère, Belette Cuivrée. Je suis content qu'elle se soit levée pour m'accompagner jusqu'au départ. Nous avançons tous les deux dans la nuit encore noire. Ma mère me précède sur le chemin du lac. Mon cœur bat plus vite que d'habitude. J'ai les mains moites. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Mon poignard, ma gourde, mon bâton de réglisse, tout est bien là. Pour me calmer, je pense à mes pieds dans le cuir souple et chaud des chaussons de grand-mère légende. J'ai bien noué mes lacets, ni trop lâches ni trop serrés. Je suis prêt à bondir de rocher en rocher. Sur les rives du lac, j'aperçois Pierre. Il s'est levé, il ne voulait pas manquer mon départ.
C'est un jour exceptionnel, petit Peck. C'est le jour de ta grande victoire.
Pierre Kissif ne doute jamais de rien. C'est aussi pour ça que je l'aime bien.
Tu vois, Faucon d'Acier, juste derrière moi, bah, il est mort de trouille. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure aller vomir dans un buisson d'épineux. Et ma cousine m'a dit qu'il s'était chicroté dessus toute la nuit.
Il faut faronne moins, le gars.
Je me moquerais bien un peu de ce chat héreux de Faucon d'Acier, mais j'ai moi-même le ventre noué. Je me contente d'esquisser un sourire pour remercier mon ami. Pierre Kissif n'est pas né de la dernière pluie. Il a bien compris que j'avais moi-même un peu la trouille. Mais il a plus d'une corde à son arc pour me motiver.
Ouvre ta main.
Je m'exécute. Il y dépose 3 lucioles.
Elles te guideront jusqu'au lever du jour. Elles connaissent les steppes par cœur. Tu peux leur faire confiance.
Cette fois, je souris pour de vrai. Plus que 3 minutes avant le départ. Je sautille un peu sur place pour me dégourdir les jambes et je parle à mes 3 lucioles pour me donner du courage. Elles volettent devant mon nez, impatientes d'en découdre elles aussi.
5 4 3
Mon cœur fait des bonds d'antilopard dans ma poitrine. La faute à l'angoisse et à l'excitation mêlées.
2
D'un seul bloc, les concurrents de la grande course d'obstacles des steppes d'ici loin s'élancent dans la nuit. Je les vois jouer des coudes dans l'obscurité. J'ai la sensation d'être cloué sur place, comme un buisson d'épineux enraciné depuis des millénaires au sol caillouteux. Mes jambes sont plus lourdes que l'enclume du forgeron. J'ai l'impression de m'enliser à chaque foulée.
La peur peut te clouer sur place. Tes jambes deviennent lourdes. Ton cœur s'accélère, tes poumons sifflent. C'est comme si tu ne savais plus courir. Ne te laisse pas avoir par la peur, petit Peck. Inspire profondément, regarde loin devant et vole. Vole, vole.
J'écoute les conseils de ma grand-mère légende. J'avale un grand bol d'air. Déjà, je me sens plus léger. J'observe mes 3 lucioles qui vont au devant du chemin. Elles me font penser à des étoiles filantes égarées sur terre. Je dois les garder en ligne de mire, oublier la nuit et les autres, me fier à leur instinct. Mes jambes me pèsent moins, mon cœur se calme, mes poumons s'enivrent de la bise fraîche qui souffle sur la steppe. Je cours, je vole, je bondis comme une gazelle à blanc pompon.
C'était un voyage dans ici loin ? C'est si loin ? Ou tout ici, Prune ?
C'est là où on a envie que ce soit.
Et c'est pour les grands ou les petites oreilles ?
C'est pour les petites oreilles.
Les miennes ont rapetissé. Merci beaucoup. Un autre extrait ?
Alors oui, c'est un extrait de L'île haute de Valentine Gobi qui est un des textes que nous proposons donc dans le cadre de nos balades littéraires et sonores Promenons-nous dans les voies. Et donc, on l'a choisi pour poursuivre ce voyage au cœur de la nuit, cette fois dans la nuit de la nuit, dans la nuit du soir. Et donc, L'île haute est un roman de Valentine Gobi paru en 2022 chez Actes Sud. Et il raconte l'histoire de Vadim, qui est un enfant juif réfugié à Valorcine pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je dois l'avouer, je suis une fan de Valentine Gobi. Elle a l'art de mêler la petite histoire à la grande histoire avec beaucoup de poésie. Et cela particulièrement dans L'île haute. Je crois que c'est vraiment mon roman préféré de Valentine Gobi. Dans ce récit magnifiquement initiatique, Vadim donc découvre la vie à la montagne à travers son corps. Tous ses sens sont en éveil et ceux des lecteurs avec. L'extrait qu'on a choisi de vous partager avec Violaine se situe au début du roman où Vadim est en train d'arriver à Valorcine. Il a fait déjà un long voyage en train pour rejoindre sa nouvelle famille. Et donc, on est à ce moment où il bascule dans la montagne.
Basculons.
L'homme pose la valise, masse son épaule, désigne le ciel. Il dit que là-haut, c'est le col. Le col est fermé 6 à 7 mois de l'année. La route aussi. Il y a bien 12 mètres de neige par-dessus, parfois c'est 14, 20 mètres. Le seul moyen d'entrer dans la vallée, c'est le tunnel de Montroc. Si le train peut y rouler, tu le prends. S'il est bloqué, tu marches sous le tunnel. Tu traverses la montagne, tu dépasses l'avalanche. C'est ce qu'on va faire. Vadim regarde vers le col invisible, qui barre l'accès au lieu de l'ouvrir, cadenasse la vallée peut-être, ou la protège. Peu importe, tant que la vallée est un abri. Il bifurque entre les maisons éparses, dont ne s'échappe ni bruit, ni lumière, rejoignent la voie ferrée, ou plutôt l'imagine, dans le résidu de sillons qui mène à l'entrée du tunnel. « Fais gaffe aux chandelles !» dit l'homme. Le faisceau de sa lampe braqué sur une frange de stalactites. Vadim scrute au plafond les minces poignards dorés. L'homme casse deux branches d'un arbrisseau, en secoue la neige et les élague. « Je garde la lampe pour après le tunnel, » il dit. « On n'aura pas de repère pour marcher dans la nuit. Tandis qu'ici, on a le mur. Tu racles la branche contre le mur, jusqu'au bout. » L'homme éteint sa lampe. Vadim s'engouffre à sa suite dans le tunnel et le noir les aspire. Comme l'homme, Vadim tient sa branche dans la main droite et frotte la paroi. Ce n'est plus le silence du dehors. Les bruits, tout à l'heure assourdis, résonnent maintenant, renvoyés en notes claires par la pierre, puis affadis, d'écho en écho. Vadim s'entend renifler. Le grattement des bâtons, les semelles frappées contre la terre, les goutte à goutte et les succions de la boue répétées se fondent en un magma bizarre. Une symphonie de grottes. À croire qu'ils sont 10, 20 là-dessous à marcher avec eux. Vadim se rend compte qu'il surveille pour rien sa respiration. L'air entre et ressort limpide. Alors, il se concentre sur la lumière, il la cherche. Il a beau dilater ses pupilles, pas la moindre lueur au devant. Même pas un furtif reflet sur la glace qui doit pendre en orgue tout au long de la voûte. Quand il se retourne, c'est le noir aussi. À un moment, il entend un frottement métallique. Un bouquet d'étincelles brasille. Puis on entend une pierre rouler. « À ton tour !» dit l'homme. « Il n'y a qu'à se baisser. Tu ramasses un caillou et tu rayes le mur. » Vadim saisit une pierre, frappe le mur. Il n'est pas bien doué. Il a les mains gelées. Il allume trois paillettes et s'accorche les doigts. L'homme rit. Le tunnel démultiplie son rire et Vadim lâche la pierre. Le frottement de la branche retentit à nouveau. Vadim l'imite. Le bras lui tire à force. Soudain, un point blafard perce les ténèbres. L'homme balance la branche. Vadim aussi. Le point se dilate, il progresse à vue. La sortie du tunnel est une trouée creusée par l'avalanche. Une béance blanche.
La nuit pourrait presque nous faire peur. Est-ce que petit elle bec...
fait... Pardon. Elle fait peur, mais elle est aussi signe d'espoir. En tout cas, dans ce roman-là, c'est une nuit qui mène vers quand même une vie un peu plus douce, même s'il y aura de nouveau un départ sur la fin du roman, mais en tout cas, voilà.
Et vous avez même appelé cet extrait, ou c'est peut-être l'auteur, le tunnel, c'est cela ?
Oui, c'est nous qui l'avons appelé le tunnel, parce que c'est notre père dans L'île haute, parce qu'on lit un autre extrait à un autre moment, justement autour de Vadim qui, quand il grandit à la montagne, découvre son corps, qui se sculpte avec le rapport au dehors. Et donc, il y a, pour le coup, un extrait qui est très lumineux.
Et à son arrivée, Petit Peck et du moins, à son arrivée, Vadim n'a-t-il pas à peu près l'âge de Petit Peck ? J'ai l'impression qu'ils ont 8-10 ans tous les deux.
Exactement.
Ouais. C'est un âge qui est un peu le vôtre aussi.
Bah, toujours. Moi, j'ai pas bien grandi, tu sais bien.
Merci. remercie pour cette découverte de votre cabane, parce qu'il y a cabane aussi quand il y a votre duo et Promenons-nous dans les voies.
Oui, on a un abri à histoire.
Et qui est-ce qui le construit ?
C'est Delphine Robin, qui est plasticienne, costumière, scénographe pour nous, elle a un peu toutes les fonctions.
J'avais pensé à un renard, mais c'est presque ça.
Tout à fait.
Nous en arrivons, après cette jolie petite virgule de Violaine et cette plongée dans les nuits de nos deux complices, nous en arrivons à notre moment de jeu d'écriture.
Et c'est toi qui as l'honneur de le présenter aujourd'hui, Christine.
Ah oui, d'habitude, c'est sur ton grill que je me morfonds, que je cherche l'inspiration. Est-ce que autour de cette table, vous êtes tous munis d'un crayon, d'un stylo, d'un peu de papier ?
Oui.
Est-ce que notre chère invitée voudrait se prêter au jeu ? Véronique, ça te dit ?
Pourquoi pas, c'est
alors,
une première.
Alors, on va trouver de quoi le faire. C'est facile, il faut du papier.
Ici,
un
du
stylo.
Papier.
Moi, j'ai un stylo.
Le stylo est là. Magnifique.
Je vous explique. Chers complices, chers auditeurs, chères auditrices, il est donc temps de passer à notre petit atelier d'écriture. Nous vous invitons à pénétrer le monde de la nuit sur une mélodie très, très estivale. Cette ambiance de campagne le soir a été enregistrée le 5 mai 2020 vers 22h et nous ne saurons jamais où. Et c'est là toute la beauté de la chose. Alors, ouvrez grand vos oreilles, dégommez vos stylos et vos crayons. Écoutez la campagne, chantez et racontez-nous tout ce que vous voyez. Allez, vous avez 3 minutes pour nous emmener sous les étoiles et au milieu des foins. Thank you.
C'est bizarre, le temps, la nuit. Ça passe pas plus vite ou il se passe quelque chose qui fait que j'étais hors du temps ou en tous les cas... Évidemment, j'ai pas fini.
Ouais, je serais bien restée coincée dans cette nuit d'été. Hein.
Ça, c'est parce que c'est la fatigue qui te gagne.
Mais c'était tout à fait parfait, du coup.
Qui se sent de lire les mots que lui ont évoqués tous ces sons de la nuit, tous ces sons de la nuit d'été et... Véronique, voulez-vous lire ce qui est venu sous votre plume ?
Sous ma plume, après une petite micro-panne de stylo.
Mais pas une micro-sieste.
Non. Bizarrement, les micro-pannes de stylo arrivent souvent à cette antenne.
À vérifier, donc.
Je me demande si c'est pas pour échapper à l'exercice d'écriture de temps en temps.
Sabotage.
Sabotage.
Et alors, c'est une première. Donc, c'est enfin le grand concert. Ils sont tous prêts pour la symphonie du siècle. Peu à peu, le public s'installe. Et Monsieur Crapaud rencontre Madame Grenouille, croisée il y a peu, près du pont du Marais. Elle est vraiment charmante. Après quelques causeries délicates, voici enfin la grande musique de la nuit.
Ah. Je vois des dessins accompagner tout ça.
Je me dis à chaque fois dans cette émission que lire, c'est une drôle de façon aussi d'écrire. On l'entend quand on écoute une lectrice... Comme vous l'êtes, on entend les mots et les mots que vous savez aussi faire courir. Bravo.
Ou bondir.
Ou bondir.
Avec des grenouilles.
Prune.
Allez.
Nous plongeons dans ta nuit.
Si j'arrive à me relire.
C'est ça.
J'aimerais parler le chant des cigales. Savoir ce qu'elles se racontent à la tombée du soir. Colportent-elles les nouvelles du monde ou chantent-elles l'amour à la veillée ? Passeuses de rêves entre le jour et la nuit étoilée, elles habitent mes oreilles comme de délicats acouphènes.
Oh, joli, très joli les acouphènes. Oh, je les vois d'une autre oui, oreille.
Tout d'un coup, l'acouphène est poétique.
Ah oui, c'est bien, plus supportable.
Très bien.
Et toi, Christine ?
Allez, je tente. Le soleil n'est plus là pour faire rougir et bombarder les coquelicots. Il a fini de l'autre côté de mon monde. Je vois des verts, des noirs, des sombres, des gris. Pout ! La lune éclaire tout cela dans un rayon de son cinéma à la Méliès. Je m'alourdis, laisse mon poids épouser le creux du pré. Que de vivants autour de moi ! Et dire que chaque fleur, chaque étoile a un nom, a un mot pour la désigner, le désigner. Qui suis-je dans tout cela, dans cette immensité ? Peut-être que les oiseaux du matin me donneront la réponse.
Ça, c'était vraiment tout à fait l'envie que j'avais de rester avec le poids du corps dans l'herbe, comme ça.
Ah, c'était très bien.
Merci. À toi, Violaine.
La lune est comme une galette, suspendue en plein ciel, et les grillons la dévorent. C'est à qui la charmera le mieux de son champ pour en croquer la meilleure part. Et il y a une source là-bas, au fond du champ. Elle est invisible derrière les grandes herbes. Mais de temps en temps, le chant d'une grenouille amoureuse de l'été nous rappelle sa présence. On est bien.
L'amour, la sensualité, la gourmandise.
L'essentiel
d'Inkipit.
Mais c'est bien, jusque-là, on n'avait pas encore parlé nourriture. Et c'est bien, t'as trouvé moyen de ramener du croquant.
Ça nous manquait.
Et de nous faire croquer la galette. Merci beaucoup. Alors bien sûr, à votre tour, chers auditeurs et auditrices, de nous partager vos créations. Il vous suffit de nous envoyer par mail vos pensées, vos écrits à inkipit@campusgrenoble.org et nous les lirons à l'antenne lors de la prochaine émission qui sera peut-être à l'automne prochain. Le voilà, le moment où nous allons encore croquer. Mais non, nous n'allons pas croquer notre invité. Nous ne sommes pas si mauvaises et nous n'avons pas la dent si dure.
Ni vorace.
Voilà le moment d'interviewer Véronique, qui est co-responsable, et vous allez plutôt me le dire mieux qu'avec mes mots, avec Béatrice et Alban de la librairie Le Marque-Page.
Ça sent le besoin de vacances. Là.
Ça sent l'été. Je voudrais y laisser des traces sur cette plage. Le Marque-Page a aussi un deuxième nom.
Ouais,
qui est celui des héros de papier.
Oui, tout à fait. Effectivement, cette librairie est là depuis très longtemps, en fait. Elle fête cette année ses 115 ans. Donc elle a été créée en 1910 et à Saint-Marcellin donc, et a été nommée dans les années 90 le marque-page. Et moi, j'ai repris cette librairie en 2017, avec comme ça, en déboulant avec mes grandes envies de tout changer et de dire on va changer de nom. Et puis voilà, moi, j'ai une énergie comme ça de dire mais moi, j'ai envie d'appeler cette librairie Les Héros de Papier. Et assez vite, j'ai compris qu'on n'allait pas changer le marque-page comme ça et qu'on n'allait pas changer l'histoire. De dire voilà, le marque-page, c'est le marque-page. Voilà. C'est quelque chose pour les Saint-Marcellinois et Saint-Marcellinoises qui est bien ancré, qui est très important. J'avais pas envie de mettre non plus de côté mon idée. Donc on a accolé en fait les deux noms, en gardant le nom du marque-page et en accolant l'héros de papier qui est en fait aussi le nom de la société, tout simplement.
Alors, on est...
Et un petit sous-titre alléchant.
Exactement.
Oui, voilà. Les héros de papier, je trouvais que ça évoquait plein de choses. Autant, effectivement, tous ces héros et héroïnes qu'on rencontre et qu'on découvre dans les textes, en fait, quels qu'ils soient. Et puis, qui veulent signifier un peu de la force. Et aussi, pour moi, c'était de papier, c'était aussi un peu ce côté peut-être très vulnérable aussi.
Et éphémère.
Et c'est une part de aussi ce qu'on est, nous. aussi.
Alors, pour ne pas plonger trop vite dans l'interview, mais en utilisant surtout nos petits mots d'Inkipit, je vais vous proposer d'aller piocher dans la dernière enveloppe de cet Inkipit numéro 9, okay. Où se sont glissés quatre mots que nous a évoqué la librairie. Et je vous laisse y répondre comme cela vient. Et puis bien sûr, j'aurai des questions pour sous-tendre tout cela, mais je suis sûre que vous avez déjà les réponses.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Et le premier mot est...
Le premier mot, c'est marque-page.
Alors, vous nous avez dit que cette librairie s'appelait déjà le marque-page.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on y trouve des marque-pages?
Évidemment.
Et quel genre de marque-page?
Et quel genre de marque-page? Des marque-pages en papier, des marque-pages en métal, des marque-pages en bois même.
C'est vrai, ça existe.
Ouais. Et oui, ça existe aussi. Ouais. Et depuis peu, des marque-pages du Vercors en plus. Donc, voilà.
Fabriqué dans le Vercors par...
Par un photographe du Vercors et par sa compagne qui, elle, fait des aquarelles. Et en fait, c'est des personnes avec qui on travaille depuis très longtemps. Et il y a peut-être une semaine, ils nous ont apporté leur création de marque-page du Vercors. Donc, on est super contents.
Parfait.
Marque-page du coin.
Bon, vous n'avez pas de marque-page en fromage?
Et non.
Ça me rassure un peu, parce que moi, je mets tellement n'importe quoi dans mes livres comme marque-page. D'ailleurs, quels sont vos marque-pages à vous? Quand vous lisez, qu'est-ce que vous glissez dans votre livre?
Alors moi, j'ai super honte, parce que j'ai une librairie qui s'appelle Le Marque-Page, et chez moi, j'ai pas de marque-page. En fait, j'en ai plein, mais je sais jamais où ils sont, et je finis par mettre un ticket, n'importe quoi en fait, un morceau du bandeau d'un livre, ou voilà. Et je ne corne pas les pages par contre.
Ah, ça, vous ne cornez pas?
Ah non, ouf, c'est interdit.
Violaine corne, je la vois.
Je corne et je me suis déjà fait vraiment rudoyer sur ce sujet.
Et ouais, est-ce que tu gribouilles sur tes
non,
livres?
Non, par contre, jamais.
Et vous?
Non.
Bon, moi si, j'avoue. Et toi, Violaine?
Moi, c'est prune.
Pardon.
Mais c'est vrai, on a un duo, alors finalement, on est un peu indissociables. Moi, ça m'arrive de mettre des croix dans les marges, mais surtout depuis qu'on travaille avec Violaine sur le projet Promenons-nous dans les voies. Parce que
c'est ma faute.
Voilà, non, c'est pas du tout de ta faute, c'est parce que c'est quand pour repérer des passages en fait, qui sont susceptibles de nous intéresser pour le projet. Donc,
vous ne lisez plus vraiment.
Mais bon, pas tant quand même. J'essaie de respecter mes livres.
Un deuxième mot, Véronique.
Nuit.
Nuit, qu'est-ce que cela vous évoque que la nuit?
Est-ce que vous passez des nuits à lire?
C'est ça, j'aime.
Alors, un peu moins maintenant. Parce que j'ai plus besoin de dormir, sans doute. Mais effectivement, je crois que pour beaucoup de lecteurs, et peut-être encore plus pour les libraires, la nuit, c'est le moment où on lit. Et c'est particulièrement plaisant, d'ailleurs, parce que je pense que c'est le moment où les choses s'arrêtent. En fait, on a quitté notre manteau là de libraire ou de quel que soit le rôle qu'on a en fait dans la vie, et c'est un moment plus silencieux, c'est un moment plus tranquille, et puis on est un peu plus, c'est plus intime en fait. Ouais, moi j'aime particulièrement lire la nuit, effectivement.
On s'immerge mieux dans les histoires.
On s'immerge mieux, ouais, je trouve, et puis on est moins dérangé.
Est-ce qu'il vous arrive de proposer des moments dans la nuit ou un peu plus tard à la librairie?
Ouais, des nuits de la lecture, par exemple.
Des nuits de la lecture, ouais, on a fait des nuits de la lecture, on fait aussi des soirées rencontres, voilà. Alors, après, on fait des veillées peu tardives, finalement. Mais il fait quand même nuit dehors.
Et ce sont quels types de veillées que vous proposez?
Alors, on a fait bien sûr des rencontres avec des auteurs ou des autrices. Et puis moi, ce que j'aime particulièrement faire à la librairie, c'est proposer des ateliers qui ne sont pas en lien direct avec le livre, mais moi je pense que c'est notre travail de faire ce lien-là. Et ce qui est important pour moi, c'est que les habitants en fait, du territoire s'approprient aussi un petit peu le lieu, la librairie, comme ça leur appartient en partie, en fait, moi je considère. Je suis pas la seule propriétaire quoi, de cette librairie-là. Et on a fait des ateliers, il y a eu des ateliers d'écriture, ça, on a fait ça lors d'une nuit de la lecture. On a fait des ateliers autour de la communication non violente, parce que ça me tenait à cœur, donc de faire découvrir aussi ça. Donc en fait, c'est l'idée de faire venir des personnes qui ne seraient pas venues spontanément à la librairie, mais via un autre sujet. Voilà, on a pu proposer aussi des choses en journée. Voilà, on a fait un atelier sur le compost, par exemple, parce que...
C'est voilà. Un lieu ressource, finalement.
Oui, parce que c'était dans... C'est un peu, voilà, on est un peu dans l'air du temps, de ce qui nous préoccupe les uns les autres, en fait, et c'est un peu tous azimuts. C'est aussi ça que moi, j'aime bien, c'est cette diversité-là des sujets, de ce qui... intéresse. Voilà. Je suis hyper curieuse, donc j'aurais tendance à dire oui à tout. À dire oui, c'est génial, c'est trop bien. On va faire ça.
Ce sont finalement autant de sujets qu'on trouve dans les livres.
Exactement.
De toute façon,
nous, on fait toujours le lien, on arrive toujours à trouver une sélection, voilà, enfin quelque chose qui va raccrocher ou pour pouvoir approfondir parfois un sujet. On a fait même des conférences gesticulées, ouais. Ça, c'était un truc dont j'étais très fière.
On fait presque ça à la radio.
Voilà.
Au moins, on gesticule des lèvres.
Troisième petit mot. Allez.
Incipit.
Quel a été le début? Le début de cette librairie? Comment? Ou le début de cette idée de devenir libraire?
Ah. Alors, on va faire les choses en plusieurs étapes.
D'accord. Nous avons du temps.
Tout à fait. Alors, moi, j'étais étudiante en philosophie, fort intéressant, mais je me suis assez rapidement rendu compte que je ne ferais pas philosophe. Et puis, c'est un peu voilà, l'idée de... Ben, j'aime bien la lecture, mais je crois qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent que dans l'idéal, je voudrais faire peut-être une profession différente chaque jour, et je crois que ça ne va pas être possible. Mais en essayant voilà, un petit job de libraire comme ça quand j'étais étudiante, je me suis dit mais en fait il y a une telle diversité de sujets, de textes, d'écrits, voilà, on peut à travers les livres on peut tout découvrir en fait sous tout un tas de formes, que ce soit la BD, que ce soit le documentaire, l'essai, la poésie, le roman. Je dis, bah en fait, ça va répondre à ce besoin-là pour moi, d'ouverture, de curiosité, d'envie. Donc voilà, je suis partie un peu comme ça, pour poursuivre une formation plus pro, hein, pro pour devenir libraire. Et puis la rencontre avec cette librairie, c'est un peu improbable. Je crois que ça l'est toujours, en fait, pour moi.
Dites-nous tout.
Ça va faire 8 ans maintenant, effectivement. Je me suis retrouvée sans boulot. La librairie dans laquelle je travaillais avait fermé. J'avais pas mal de temps pour moi. et je pars, c'était à l'automne, peut-être septembre, je ne sais plus. Je me dis que cette région-là, par là, vers la Chambaron ou le sud Grésivaudan, doit être très sympa pour aller faire une petite rando. Donc je pars faire ça un matin, j'étais grenobloise à l'époque. Je déambule, bon, très bien, parfait, merveilleuse journée. Je n'ai pas vu une mouche, je n'ai pas vu un animal, rien du tout. J'arrive à Saint-Marcelin à midi parce que, ma foi, c'était la faim qui commençait à me tenailler.
Petite faim, un pique-nique.
Voilà, c'est ça, j'avais besoin de faire une pause pour manger. Et je passe dans cette rue et je me dis, mais... C'était un peu pour moi l'image d'Épinal de la Limerie. Elle a une devanture en bois
qui
a plus d'un siècle. Et je me dis, c'est complètement dingue.
En lettres peintes.
Voilà. Donc je rentre et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Une sorte de coup de foudre, un truc que j'explique toujours pas, vraiment pas. Je suis restée un long moment, j'ai discuté avec la personne qui était là à l'époque. Bon, je rentre et je raconte quelques temps plus tard cette découverte, ma foi, à mon ancien collègue, qui me dit, mais à vendre cette librairie. Je dis, non, c'est pas vrai. Il dit, si, si, je t'assure. Et donc, on regarde, voilà. On regarde ça, et effectivement, cette librairie était bien, voilà. Les propriétaires cherchaient à la transmettre, et j'ai dit, bah... Je me suis posé aucune question, en fait. J'y suis allée. J'ai dit, c'est là, c'est celle-là, c'est maintenant. Donc, 6 mois après, j'ai acheté la librairie, j'ai déménagé et voilà.
Et là, aujourd'hui, vous avez deux associés ?
Non, aujourd'hui, moi, je suis seule en gérance, ouais, et puis c'est deux salariés.
Deux salariés, ouais, ok.
Qui travaillent avec moi, Béatrice et Alban.
Pour une librairie totalement généraliste.
Ouais, généraliste et totalement indépendante.
Et totalement indépendante, ouais. Très important.
Très important et, ouais. Et pas toujours simple, mais en tout cas, c'est ça qui... C'est aussi des valeurs auxquelles on croit, en fait. C'est cette possibilité de faire tous nos choix. Il n'y a aucun livre qui rentre dans cette librairie sans qu'on l'ait choisi. Donc, c'est aussi
donc avec une variété d'éditeurs,
bien sûr.
De maisons d'édition.
De maisons d'édition. On essaye toujours d'avoir l'équilibre, d'aller chercher des éditeurs un petit peu plus confidentiels ou aussi indépendants et maintenir l'équilibre de tout ça. Ouais. Et puis que ça corresponde aussi à la diversité des lecteurs. Parce que on choisit pas des livres pour nous, en fait. Bien sûr, il y a des livres qu'on apprécie ou des auteurs qu'on a envie de porter, évidemment, mais on les choisit pas pour nous, on les choisit pour ceux qui repartiront avec.
Le dernier mot du fond de l'enveloppe.
Alors, t'allais pas venir. Société. Tu m'auras pas. Société.
Vous avez parlé tout à l'heure de votre engagement au-delà de la littérature à faire vivre la librairie au travers d'événements. Est-ce que dans ce que vous proposez en littérature générale, il y a un attachement au sujet de société, d'actualité ?
Toujours, ouais. Je crois que quelque part maintenant on dit engagé. Je crois que c'est ça le mot qu'on utilise. Je me pose toujours la question de comment est-ce qu'on définirait ça exactement. Mais oui, on... quelque part, les livres ou les essais, c'est un regard qui est porté sur le monde et par des points de vue qui peuvent être contradictoires ou justement ou s'enrichir, etc. Et pour moi, c'est ça qui donne une image de la société qui me semble beaucoup plus large que ce qu'elle peut paraître dans d'autres médias où on aurait tendance peut-être à réduire un peu l'entonnoir, vous voyez, plutôt que de l'élargir. Et c'est là où je trouve important d'avoir toujours pensé diversité, en fait. Voilà. Et toujours.
Diversité de la forme, du point de vue, du type d'écriture.
Tout à fait. Et surtout de la diversité et de l'importance du langage. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur, en fait, du vocabulaire, du langage, du sens des mots, de la définition des mots. Voilà.
Donc il y a quelque chose qui fait société aussi entre vos clients ou les lecteurs qui viennent faire du lien ou viennent mener quelque chose avec vous, à vos côtés ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme comme une tribu de,
ouais, je
de,
pense que...
de marque-pages.
Je pense qu'il y a une tribu, ou alors il y a des tribus, je ne sais pas bien, ouais. Parce que moi j'ai cette impression, effectivement, d'avoir beaucoup de gens autour de nous, en fait, et à la fois peut-être des personnes qui s'intéressent à plein de choses différentes, qui sont peut-être pas, même si on devait mener un grand débat, on ne serait peut-être pas d'accord, et peu importe. Oui, je pense que nous, on a un, moi, j'ai l'impression qu'on a un rôle social hyper important, un rôle de lien, etc., qui est aussi lié au fait qu'on est en milieu rural. J'ai tout de suite ressenti cet attachement à la Limerie, pas que comme un magasin, en fait.
Pour vous, il y a quelque chose de différent quand on est ici à Saint-Marcellin ou ailleurs dans une petite bourgade par rapport à l'expérience que vous avez eue en tant que libraire dans une ville plus grande comme Grenoble.
Ouais.
Il y a un autre lien, un autre attachement,
oui,
à la librairie.
Oui, bah déjà aussi parce qu'on fait rapidement des... Nous sommes moins nombreux. Donc on fait vite des rencontres, des liens, voilà. On a vite des connaissances, etc., dans tous les villages environnants, et il y a quelque chose qui se crée, que je pense que c'est lié aussi à une façon d'être, hein,
bien sûr
mais nous, on nous a apporté des fraises, des salades, des tomates, parce que voilà, de façon très, très naturelle, très spontanée, le
compost, jardinage, tout est,
c'est de la
tout
culture,
logique, sens, c'est la culture,
voilà. Nous, on nourrit, on essaye de nourrir des esprits, on nous nourrit à nous, notre ventre. Moi, je trouve ça super mignon. Bah, il y a, voilà, je c'est mon, je viens d'avoir un petit fils, alors je vous le présente, voilà. Il y a quelque chose qui se crée à ce moment là que je trouve vraiment vraiment chouette, quoi. Et une communauté, ouais, sans doute, et puis une communauté.
Une communauté.
Une communauté, voilà. J'ai une communauté de lecteurs et aussi une communauté de curieux.
De société, nous garderons donc diversité et communauté.
Oui.
Merci beaucoup pour ce temps d'interview qui se clôt autour de ces quatre mots, mais les choses continuent. Puisque nous vous avons demandé de nous apporter un extrait qui évoque votre nuit, votre coup de cœur de la nuit, ou peut-être votre coup de cœur du sommeil.
Quel ou est de donc ce livre?
Quel est ce livre?
Eh ben, c'est un peu tout ça réuni. J'ai choisi le livre d'une autrice que moi j'aime bien.
tant mieux.
Non, oui, j'ai choisi quelqu'un que je n'aime pas. J'aime beaucoup son écriture, de par la sensibilité de sa plume et cette capacité d'écrire simplement les âmes humaines, en fait, de le décrire. Je trouve ça incroyable. C'est Gaëlle Josse, hein, parce que si je vous dis pas qui c'est...
On était
suspendus à vos lèvres.
Ouais, et je trouve ça incroyable, cette capacité qu'elle a d'observer les autres et de les aimer, du coup, parce que ça se ressent aussi, et de le retranscrire de façon poétique et simple. Voilà. Et dans ce texte-là, elle a essayé, qui s'appelle « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ?» qui est donc vraiment sur le thème de la nuit. Elle a essayé d'explorer, en fait, quelque chose qui arrive sans doute à chacun, chacune d'entre nous, au moins une fois, si ce n'est de façon très régulière, à ce moment où on est, j'aime bien, elle dit cette expression, elle dit « au bord du sommeil ». Qui est en fait ce moment où finalement on ne va pas dormir. On est, on va dire, en insomnie, mais il y a quelque chose qui nous retient, et probablement un moment de notre vie où quelque chose qui nous traverse et qui fait qu'on reste en éveil, alors que ce n'est pas le moment, finalement. Voilà. Et il en ressort des micro-fictions dans ce recueil-là, plutôt. De plein de situations inventées, mais totalement possibles, de raisons pour lesquelles la fenêtre, en fait, est allumée dans l'immeuble d'en face, et que manifestement cette personne ne dort pas. Donc voilà, c'est des petits instants de vie imaginée, d'insomniaque, ou pourquoi je suis pourquoi cette personne est éveillée. Et...
Alors, on voit, nous, ces fenêtres allumées. Voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que dans ce livre-là, vous avez beaucoup de marque-pages.
Oui, c'est des très jolis post-it.
Ils sont très, très mignons.
Ne sont pas des tickets de bus ou ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est vraiment là des...
Non, j'ai voulu essayer de faire la classe. Donc, j'ai des petits post-it. Petit chat qui colle.
La verticale, à l'horizontale.
C'est super mignon. J'avoue que c'est hyper chou. Non, je les ai mis parce que j'ai hésité entre plusieurs extraits et ce que j'ai mis dans l'autre sens, c'est parce que dans la continuité de ce qu'a voulu faire l'autrice, il y a des tout petits poèmes pour montrer que ce qui rassemble tous les auteurs, tous les personnages, en fait, c'est... la seule chose qu'ils ont en commun, c'est ce moment s'endormir, et donc pour divers rapports à la nuit, tout simplement.
Voilà. Vous donnez vraiment envie.
Mmh. Ah, chouette.
Nous sommes toutes oui.
La nuit manteau, la nuit forêt, la nuit murmure des arbres et cri des bêtes. Elle s'est assise devant la tablette étroite en faux bois stratifié, qui fait office de bureau dans cette chambre d'hôtel. Et elle regarde fixement le rectangle sombre, froid, de la fenêtre. Elle ne voit que la moitié de son corps dans le reflet, juste son buste, un coude posé sur la tablette, une main qui soutient son visage légèrement penché, l'autre qui glisse sur un bloc de feuilles blanches. Elle se met à écrire. Il est tard, des heures de train, puis un trajet en voiture... son bagage hâtivement laissé dans la chambre d'un hôtel dont elle sait à peine le nom, et puis la rencontre avec les lecteurs autour de son dernier livre. Le dîner, ensuite, joie et fatigue. Parler, encore. Retour à la chambre, le voyant vert qui s'affiche sur la serrure au passage de la carte magnétique. Déposer les vêtements sur la chaise, sortir ceux du lendemain, passage à la salle de bain, échanger le visage du jour contre le visage du soir. Ne pas s'attarder sur les marques de fatigue. Dormir. Il faut dormir. C'est l'heure des derniers messages lus et échangés sur son téléphone. La vie de la maison loin d'ici. Je vous aime. Je t'aime. À demain. Elle voudrait dormir, mais le sommeil ne vient pas. Alors, elle écrit. Elle écrit dans cet hôtel inconnu, dans cette ville inconnue, dans ce lieu qui lui offre une halte pour quelques heures, jusqu'au train du matin. Il y a des mots qui demandent à être déposés là, des mots qui se bousculent face à la nuit, des mots nés de la nuit. Elle ne sait pas où ils l'emmèneront, mais ils apparaissent, ils l'emportent, alors il faut leur faire de la place, les écouter venir et leur tendre l'espace de la feuille. Un passage se dessine, tracé par un couloir de mots, et rien d'autre ne compte que cet instant. Quelque chose se creuse au cœur de l'obscur, quelque chose d'oublié et d'abandonné, d'incertain, qui demande à vivre. L'abat-jour éclaire la main et le stylo. Derrière elle, le lit ouvert attend. Quelque chose est en train de naître sur les lignes irrégulières, tracées avec hâte. Elle écoute, elle accompagne cette naissance. Où qu'elle soit quand l'écriture est là, elle est son foyer, son arbre, son monde au bord du monde. L'écriture se faufile entre les silences, elle cherche ce qui n'a pu être dit, ce qui fait peur, ce qui fait cri, ce qui fait joie. Elle cherche le passage secret, un jour entrevu, le cours d'eau où aller à la dérive. Elle sursaute, une porte claque, celle de la chambre voisine. Des voix, femmes et hommes mêlés, et le silence. Il y a de la vie quelque part ici autour d'elle, une vie bien présente mais invisible. Elle se demande à quoi ressemble ce couple de l'autre côté de la cloison. La femme brune en manteau beige aperçue à la réception, ou l'étudiante en sac à dos et dreadlocks arrivée juste après elle. Le commercial en parka rouge, North Face sur costume gris, ou celui avec une grosse mallette. Au loin, elle aperçoit le tintement étouffé des portes de l'ascenseur quand il s'arrête à son étage. Parfois, l'écriture l'emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière. Puis, au dernier moment, Elle la sauve de l'effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. Elle écrit ce qui se tisse sous sa main, ce qui demande à venir. Elle écrit un morceau de nuit traversé d'un vol d'oiseau, d'un trait de lumière. Elle ne sait pas où ça l'emporte. Peut-être écrit-elle ce lieu aussi, celui qu'elle habite en rêve, là où les champs de blé viennent caresser la mer. Elle écrit, j'écris.
Merci pour cette beaucoup. Belle mise en abîme.
Moi, je découvre une autrice. Vraiment, ça donne très, très envie de plonger dans tout le reste et avec les marque-pages. Merci beaucoup. Alors, pour terminer cet entretien en musique, nous vous avons demandé, et je sais que ça a été difficile, de choisir la BO qui pourrait donner l'ambiance pour ambiancer le marque-page et ses héros de papier comme s'ils dansaient. Nous, nous avons tranché. Nous avons Fort choisi bien. Le rock'n'roll. Mais vous pourriez nous expliquer un peu votre dilemme ?
Ah, le grand dilemme, oui, tout à fait. Alors, j'ai demandé à Béatrice et Alban, effectivement, de m'aider à choisir. Et avec nos personnalités qui sont en effet très branchées, rock and roll, qui sont très branchées, on est un peu très rock et sans doute un peu rebelle aussi. On était parti un petit peu sur tout un tas de trucs. Et puis, je me suis dit, mais finalement, extérieurement aussi... Ali Marie, elle a le poids de son histoire, en fait, mais c'est pas un lourd poids, c'est un joli poids. Et elle est à Saint-Marcelin, une petite bourgade, où samedi matin, on va au marché, voir son petit café. Et c'est un peu la France qu'on aime bien, là. Vous voyez, ce petit truc qui mettrait bien un peu d'accordéon.
Un petit bal musette.
Ouais, un petit bal musette, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui correspond au libraire du lieu. Et en même temps, on aime bien aussi. On a un vrai respect pour ça. Voilà. Donc c'était difficile de dire, mais en fait, le marque-page, c'est un peu les deux. C'est un peu, voilà. C'est un peu ce côté France sympathique, là. Et peut sans doute très cliché, mais c'est pas grave, il faut assumer aussi. Et ce côté rock et résolument dynamique, je pense.
Bon, alors résolument, pas d'accordéon, mais, voilà. Mais une guitare un peu stridente,
ouais.
Avec The Punisher's Job.
Oui, voilà, c'est un titre qu'on a choisi. Ça a été tout de suite quelque chose de... On voulait de l'instrumental, en fait, voilà, pour que chacun puisse peut-être s'imaginer dans sa déambulation, peut-être à la Limerie, s'il la connaît ou s'il la connaît pas, d'ailleurs. Et ce que ça peut évoquer, peut-être, je sais pas.
On ouvre
Allez
les portes.
Arnaud,
et ouais. On y va avec Arnaud.
Envoie le son.
Avec cette virgule.
Tu as vu un peu cette transition.
Oh, merveilleuse
transition. J'avais pas d'accordéon, Véronique, à vous proposer, mais c'est très curieux.
Merci beaucoup, Véronique, pour cette plongée électrique, mais aussi humaniste, humaine. Enfin, vive Saint-Marcelin et tout ce qu'il résonne dans ces rues et dans la grande rue.
Et merci à vous aussi pour la proposition de cette émission.
Grand plaisir.
Grand plaisir, grand, grand plaisir. C'est l'heure de la poésie. C'est toujours l'heure de la poésie.
C'est plus que jamais l'heure de la poésie
sonore.
Tout à fait. Alors ce jour, on vous propose une poésie nocturne de Jean-Pierre Siméon. Alors Jean-Pierre Siméon, c'est un romancier, c'est un critique et il est né en 1950. Il est l'auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse, de nombreuses pièces de théâtre, un essai sur le théâtre également. Et au-delà de sa production écrite, c'est un grand défenseur de la poésie, dans toutes ses formes. Il est animateur radio de la série Géographie du poème, notamment sur France Culture. Il a été aussi un temps président du Printemps des poètes. Et il est également président de plusieurs jurys et instigateur du prix André Chédide. Et il porte partout la voix de la poésie. Alors nous allons vous lire un extrait du recueil « À l'intérieur de la nuit ». Et il est paru ce recueil en 2021 aux éditions du Chêne, aux éditions Chêne d'ailleurs plutôt. Et c'est un véritable objet d'art illustré des images lunaires d'un artiste dont je n'ai pas noté le nom.
Moi, j'ai noté Yann Bagot.
Eh bien, c'est bien, c'est exactement cet artiste-là.
Et moi, je voudrais faire juste une petite parenthèse sur les éditions du Chêne, parce que c'est vraiment de très, très belles éditions.
Alors, du Chêne ou Chêne, finalement ?
Les éditions Chêne.
Ah, voilà.
Les éditions Chêne, qui sont une très belle maison d'édition de poésie, avec des vrais petits bijoux d'art.
Et des illustrations, donc.
Pas toujours, mais parfois.
On fera une émission sur les éditions. À marcher dans un chemin la nuit, gravier, feuillage, foin couché, on connaît la chair de la nuit.
Corps sensible, main du vent fraîche dans le cou. Non pas des parfums, des odeurs.
Et la pesée étrange de l'air sur l'épaule. Non pas cris, chants, trilles, voix passantes et muettes, enlacement.
Mais comme enlace, la pensée de qui aime, pressante et s'en tenir.
C'est la fin d'Inkipit, car il y a toujours un début et puis une fin. C'est comme ça, c'est pas grave.
Merci Christine.
Chers invités, merci beaucoup Véronique, merci à la librairie pour cette alcôve, ce moment qui sent bon, qui fait du bien. Merci à Arnaud qui est venu jusqu'ici avec le studio hyper mobile de Radio Campus Grenoble. Merci à Violaine Soulier et à tout son tapis sonore. Merci à toi Prune, car tu es bien Prune, je te reconnais. Et pour tous tes mots, ce que tu écris, ce que tu nous dis.
Et merci à toi Christine.
Et à bientôt.
Et à bientôt.
Pour un Inkipit.